nouvelles voix en Beaujolais.
Nouvelles voix en Beaujolais.
Les nouvelles voix en Beaujolais sur Quelade, une émission réalisée en direct depuis le théâtre de Villefranche.
Nouvelles voix en Beaujolais.
Au programme, une rencontre avec les artistes invités du festival de la musique et du live, avec ce soir Dampa, Inuit, Clément Bazin, et en live sur les ondes de Calade, Yeast.
Nouvelle voix en Beaujolais.
Nouvelle voix en Beaujolais.
Alors au début, il y a la pulsation, le battement, le beat, celui du cœur, notre pulsation intime. Au début de la musique, le même battement. Sur scène, la pulsation donnée par le batteur en frappant ses deux baguettes. Une pulsation commune qui connecte chaque musicien avec l'autre. De cette pulsation, tout commence toujours par une pulsation. Va naître le mouvement qui synchronise tous ceux qui sont là. Musiciens, public, tout le monde partage cette même pulsation. Et cette pulsation, elle est souvent pour les musiciens, elle est donnée, alors j'ai dit par le batteur, mais aussi donnée par un petit instrument. Regardez, j'en ai posé plusieurs là sur les tables. C'est par le métronome. Alors j'ai amené une petite collection personnelle. Je vais vous demander justement quel rapport vous avez avec l'instrument. Avec nous ce soir sur le plateau, il y a les musiciens de Yeast. Arthur, le guitariste, Cyril, salut, batteur du groupe, Judicaël, bassiste, salut, et Léo, chanteur, guitariste et clavieriste.
Yes.
Avec nous aussi Clément Bazin.
Salut.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Olivier Bocon-Gibaud, programmateur du festival, mais qui se retrouve sans micro. Bonsoir Olivier.
Pour dire bonsoir.
Bonsoir. Alors, je vous ai posé des métronomes, des métronomes mécaniques, des métronomes électroniques. Quel est le rapport que vous avez avec cet objet en tant que musicien?
C'est un peu un rapport amour-haine, on va dire, je dirais. c'est un outil de travail, quoi. C'est quelque chose. Pas grand chose à dire non plus.
Pas grand chose, non, mais est-ce que c'est du coup amour-haine, est-ce que c'est quelque chose qui vous amène de la rigueur ou,
ah oui, clairement.
Maintenant, et plus clairement aussi, cette pulsation au départ, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que vous en avez encore besoin? Ou est-ce que c'est un truc, vous êtes tous les quatre là dans la même pulsation et que maintenant, aujourd'hui, à force de vous connaître, vous n'avez plus besoin forcément de ce coup de baguette au départ ou de ce...
Je pense qu'on a toujours besoin, et quand je dis on a, c'est aussi on aura toujours besoin, dans le sens où c'est quelque chose qui permet de clarifier pas mal de choses. Nous, en plus sur scène, on joue pas mal avec des machines, donc ça implique du coup de les suivre, etc., d'arriver à mixer machine instrument vraiment live. Donc forcément ça demande un travail assez rigoureux avec du métronome. Notre agence de tour s'appelle Métronome, donc voilà, petite parenthèse.
Big up.
Fallait quand même placer un moment ou un autre. Mais oui, c'est un outil pour nous qui est nécessaire.
Qui est même essentiel, en fait.
Ouais.
C'est un outil essentiel, oui, et un travail.
Ouais, mais en même temps, à force de travailler ensemble, et oui. Je pense qu'il y a, comme tu disais, il y a aussi un moment donné où on n'a pas forcément besoin non plus pour faire de la musique ensemble. Enfin, maintenant, je pense qu'on arrive quand même à avoir une pulsation commune sans forcément le suivre. Mais oui, c'est vrai que sur scène, après, bon, c'est toujours mieux de bien suivre les...
Il y a Dampa qui nous a rejoint sur le plateau de Calade. Bonsoir.
Bonsoir.
Ah, on commençait juste cette interview en parlant du rapport des musiciens avec ces objets-là que j'ai posés au plus près de vous. Là,
c'est tellement sévère, un métronome en plus, quand tu fais pas
gaffe. Avec le métronome. Du coup, je profite en vous accueillant, de vous demander, vous, quel rapport vous avez avec le métronome et avec la pulsation?
Eh bien, sachant qu'on fait de la musique électronique et qu'on compose généralement sur des séquenceurs comme Logic ou Live Ableton, en fait, le métronome est là, généralement automatiquement. Et quand on l'enlève, en fait, c'est une volonté pour pouvoir s'en délier. Mais c'est surtout Victor qui, lui, est au piano, qui peut plus en parler du métronome.
Ben, c'est la parole à Victor. Bonsoir Victor.
Bonsoir. Non ouais, le métronome c'est un. Enfin, je pense que c'est un outil qui permet de définir plein de choses, d'avoir un robot qui nous maintient une pulsation pour pouvoir penser à autre chose sans se fixer sur ça. Et je sais pas trop quoi
le
dire.
Le temps qu'on puisse intégrer la pulsation.
Pardon ?
Le temps presque qu'on puisse intégrer corporellement cette pulsation.
Ouais,
et...
ouais, complètement. Ouais.
Quand j'étais gamin, je me demandais toujours pourquoi, en fait, les musiciens sur scène, quand j'allais voir des concerts, ils faisaient du cinéma, bouger comme ça, là, ils sont danseurs, sur musiciens,
ils deviennent des métronomes.
Je comprenais pas trop ce besoin qu'avaient les musiciens de bouger, mais même les musiciens classiques, dans un orchestre symphonique. Puis après, en fait, quand on pratique, on se rend compte, on comprend qu'il y a quelque chose aussi qui doit s'inscrire dans le corps et qui.
Ouais.
Est-ce que vous le vivez comme ça aussi?
J'ai du mal à rester immobile.
C'est bien, on sent en même temps un regard d'envie et en même temps de crainte.
En fait, je veux dire, ça me rappelle quand j'ai commencé la musique, quand tu travailles ton instrument, t'es obligé de travailler au métronome. Donc c'est un truc qui est assez sévère en plus quand tu le regardes, qui est assez moche quand tu travailles des gammes ou des trucs comme ça. Je sais pas si vous avez fait ça en bossant vos instruments. C'est assez chiant. Et en même temps. Après, quand tu fais de la musique électronique, c'est assez central, parce que comme elle disait tout à l'heure, dans tous les logiciels, t'as un métronome. Et en fait, tu le retrouves. En fait, ce truc est hyper classique, à la con, tu vois, de tic-tac, tic-tac.
Ça commence par ça.
Alors qu'on est dans une musique moins académique, et la musique, en tout cas, électronique, on retrouve ce métronome, c'est rigolo. Après, la pulse, sans métronome, sans pulse, c'est autour de ça que tu vas swinger ou que tu vas faire groover quelque chose, quoi. Donc, c'est un truc très sévère et assez odieux. Mais finalement, c'est grâce à ça que tu peux avoir un groove qui s'installe.
Et puis ça peut te faire découvrir des temps aussi. Je vois Victor bosser parfois sur des temps, je sais pas, genre 4-7 ou des trucs en fait qu'on n'a pas instinctivement, parce qu'on est sur le 4-4 généralement. Oui. Et ça te pousse justement à aller vers des rythmes. Enfin, quand t'écoutes Radiohead ou des trucs comme ça, ça te pousse à te dire ok. Je deviens complètement taré et j'essaye de suivre ce métronome. Et ça t'emmène ailleurs. Et c'est assez intéressant. Ça peut aider.
Ça peut aider.
Et pour comprendre aussi en quoi le métronome, si vous avez un métronome à la maison, là je m'adresse aux auditeurs, et puis vous sur les métronomes, vous avez fait cette expérience-là, vous mettez votre métronome entre 60 et 70, d'accord, vous le faites tourner tranquillement, et puis après vous prenez votre pouls. Alors au début vous allez prendre votre pouls, le pouls sera pas synchrone, mais très vite, en moins de 30 secondes, le pouls va se synchroniser avec le métronome. Faites l'expérience.
Allez.
Il y a un rapport qui est assez lié à ça, je pense, assez cardiaque avec le métronome. On s'en rend compte d'ailleurs quand on. Enfin, moi personnellement, je me rends compte le matin quand je me lève, ou même des fois quand on est sur scène, qu'on a un petit peu plus. Qu'on a le taquant qui bouge. On se rend compte des fois que la musique nous paraît beaucoup plus lente ou plus rapide. Des fois, ça dépend des heures de la journée. Enfin, on a un ressenti à la pulse qui varie, et je pense que ça dépend beaucoup de ce truc-là, cardiaque.
Ouais, ça c'est terrible, c'est fou ça quand même. T'as des morceaux, quand tu bosses sur des mix ou des trucs comme ça, pardon, je t'ai coupé, tu réécoutes tes morceaux, tu les réécoutes, par exemple, tu les écoutes le soir, tu te dis putain, il y a 5 points de trop, puis tu les écoutes le matin, tu te dis putain, ça manque de. Et c'est peut-être avec le rythme cardiaque, c'est vrai.
Bah moi je voulais juste faire une parenthèse, du coup, rebondir sur ce que tu disais entre 60 et 70. Les standards pour les titres en mainstream hyper pop et tout, les grosses productions américaines, pour être un peu cliché, mais bon, ça illustre. C'est très souvent, c'est entre 120 BPM et 129 BPM, donc battements par minute, justement pour ça, parce que ça se cale un peu sur le rythme cardiaque moyen. Et c'est un truc qui vient de là, quoi. C'est un truc, je me suis posé des questions pendant hyper longtemps. Et pourquoi est-ce qu'ils sont tous dans ces BPM là? Et ouais, la réponse est ça, en fait.
Alors, c'est le double. C'est le double.
Oui, bah, le double
cardiaque.
Du coup.
Oui, le double, mais du coup, oui, il y a quelque chose.
Ouais,
qui...
Sinon, ouais, ça va pas bien, ouais.
Alors, Liste, on va parce qu'on va vous laisser partir avant, parce que à 19h vous jouez, donc on va vous libérer là dans une poignée de minutes. Liste, c'est-à-dire la levure. C'est ça, hein.
C'est mon tour. Oui, c'est ça, exactement.
La levure. Exactement. Alors, est-ce que juste on peut avoir une toute petite explication?
Oui.
Sur le choix du.
Mais oui. Du non, mais ça peut paraître bizarre, mais on n'a pas vraiment pris forcément pour la traduction en elle-même. On aimait bien la typographie du mot, je sais pas si ça se dit, mais on le trouvait joli. Au son, ça nous parlait aussi. Et après, de manière plus générale, la levure, comment on fait une musique un peu aérienne, tu vois. On peut se dire aussi que, tu vois, le pain qui gonfle, enfin, j'en sais rien, en fait, voilà. Ça, je sais pas si les gens vont comprendre, mais.
Aucun de nos parents n'est brasseur ou boulanger.
Non, on aime bien la bière, bon, ça, on peut dire ça aussi. Mais...
Yist, donc vous proposez sur scène
un band, quoi. Oui. Groupe, oui. Guitare, basse, batterie, clavier, un peu de machine, mais pas tant que ça. Et un travail autour des voix.
Oui, beaucoup.
Des harmoniques, des choses comme ça. Alors là, comment on se cale, comment on se dit, on se lance dans la difficulté comme ça?
Bah, je me rappelle plus exactement comment c'est venu, mais je crois qu'on aime juste tous chanter, de base. Et puis, au bout d'un moment, on a commencé à s'amuser, à faire des harmonies sur la voix principale. Et puis, on s'est rendu compte que nos timbres marchaient plutôt pas mal ensemble. Mmh. Et puis après, bah voilà, c'est pas mal de travail, du coup, parce que déjà, il faut les écrire.
Pour ça, c'est quasiment, en fait, un instrument supplémentaire, vous rajoutez, quoi.
Ouais, c'est vraiment un élément central de notre musique qu'on a vraiment voulu assumer très vite et dont on a essayé de faire, en tout cas, une particularité, si c'en est une. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, bah, on passe pas mal de temps à travailler ça aussi. En plus du métronome, mais c'est non mais on aime beaucoup ça, mais voilà.
Le rythme et puis l'harmonie, en fait, c'est les fondamentaux.
Bah ouais, du coup c'est ça. Ouais.
Vous avez sorti un EP qui s'appelle Dust of List, donc les choses avancent dans ce projet qui chemine. On attend tous la prochaine étape qui est dans les grandes normales un album. Vous en êtes où par rapport à ce projet-là d'album?
Vas-y, si tu veux.
Ouais. Je dis Kael.
Ouais. Tout d'abord, l'EP s'appelle Dust of Light, du coup.
Je sais pas ce que t'as dit.
Dust of Yeast, je crois, mais c'est cool. Hein,
ah oui, non, j'ai dit. Ah, mais en fait, c'est que j'ai comme un cochon, en fait.
Pas de souci. Oui, et puis du coup, pour répondre à la question.
Dust of Light, oui, en plus, ça a beaucoup plus de sens.
Oh, je sais pas, ça peut avoir du sens. Hein. Poussière de levure, pourquoi pas.
Le prochain.
Pour répondre vis-à-vis de l'album, effectivement, c'est une question qu'on se pose, mais bon, on a sorti l'EP il y a un mois seulement, donc pour l'instant, on va se concentrer là-dessus, sur le fait de tourner avec cet EP, d'en profiter un maximum, de vraiment pousser cet EP au bout de ce qu'on peut le pousser.
Oui.
Et ensuite, effectivement, de toute façon, on ne tient pas trop en place, donc avec les tournées, on va commencer bientôt à se remettre à composer, je pense, et de toute façon, oui, c'est une étape qu'on aimerait passer. Je pense que ça va venir très naturellement dans les prochaines semaines déjà, parce qu'on a toujours des idées, donc on a envie de commencer à les poser sur papier, forcément.
Tout à fait, je suis complètement d'accord.
D'accord,
je
Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer en quelques mots comme ça, un petit peu le parcours de votre groupe, comment il y a un moment... Alors bien sûr, vous vous êtes rencontrés, mais aussi comment vous avez cheminé vers l'idée d'un projet sérieux et d'un projet pro.
Ben, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a deux dimensions là-dedans. Tu vois, t'as un truc, effectivement, tu arrives un moment, tu prends cette décision-là. Mais en même temps, c'est quelque chose aussi qui est très naturel. Arrive un moment, tu commences à faire de la musique, puis tu commences à te dire, sans forcément penser pro, tu te dis, j'ai envie de faire des concerts, j'ai envie de faire des disques, etc. Et ça arrive assez tôt, en fait, avec Léo. On s'est rencontrés quand on avait 15 ans. On a commencé à faire de la musique à ce moment-là. Et c'était déjà l'objectif directement. Le premier disque qu'on a enregistré ensemble, on avait 17 ans, je crois, on était en terminale.
Oui.
Après tout ça, arrive le moment où tu fais ton choix pour tes études. Et puis on s'est orienté tous les deux dans des choses, on continue de faire de la musique, mais qui n'avait rien à voir avec la musique. Donc, fac, école de commerce, tout ça, on a tous les deux tenu 6 mois, quoi. Et après, du coup, on s'est orienté à fond dans la musique. On a rencontré Judy Kael, on a fondé Yeast, donc maintenant il y a à peu près 4 ans. Oui. On a rencontré Cyril il y a un an et demi, 2 ans. Il y a bientôt 2 ans. Et voilà, donc là ce troisième EP du coup est sorti. On l'a travaillé différemment des deux précédents. C'est pas hyper juste grammaticalement, mais l'idée elle est là. On a cherché à faire un disque qui était vachement plus live, vachement plus vivant. Et voilà, quoi, c'est. Je sais pas comment je suis arrivé sur le disque, mais c'est pas grave.
Ouais, quoi qu'il en soit, ce qu'il voulait dire, c'est que quand on commence à faire de la musique, on s'oriente au
nord. Une pensée qui lève comme la levure.
Ah bah oui, c'est ça, exactement.
Ah bah lui, tu
c'est
veux,
l'illustration de notre nom de groupe, effectivement.
En tout cas. Yeast, vous êtes à 19h en concert depuis la scène du bar du théâtre, donc vous avez encore largement le temps de venir nous rejoindre au théâtre pour découvrir Yeast sur scène. Et en plus, chez Yeast, il y a deux écoles. D'un côté, sur scène, c'est Chaussettes Bleues ou Chaussettes Noires. Ouais, merci. Merci en tout cas d'être venu faire un tour sur le plateau, et on vous souhaite un très bon concert tout à l'heure. Et bien sûr, on trouve facilement sur les réseaux sociaux si on veut vous suivre et voir comment vous allez continuer à cheminer avec ce beau projet. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et donc, je disais, Dampa nous a rejoint tout à l'heure. Un groupe originaire de La Rochelle.
C'est ça.
Voilà.
Exactement. La côte atlantique est présente.
Deux personnes, donc Victor et Angeline. Angeline ou Angeline ?
Angeline.
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 D'accord. Qui propose une musique, donc on l'a dit, hein, plutôt électro. Est-ce que je peux vous laisser un peu présenter votre projet, votre parcours et parler un peu comment on l'a abordé avec Kist, comment à un moment ce projet il a pris corps et comment il s'est inscrit dans quelque chose d'un peu plus sérieux que de faire de la musique juste pour faire de la musique ?
Bon, je sens que je vais y aller, j'ai des regards de Victor en mode vas-y, vas-y, ok, j'y vais. Alors, ça fait beaucoup d'années qu'on fait du son ensemble. On s'est rencontrés, on était adolescents à faire des reprises de Kanye West à 15 ans. Mais c'était sur GarageBand, des trucs comme ça. Et bref, on a toujours voulu faire du son. Séparément, on a eu des projets différents. Soul, funk, chansons françaises, rien à voir avec Tampa aujourd'hui. Et en fait, Dampa, comme ça j'explique directement ce que ça veut dire, c'est le refuge, ça veut dire un refuge.
Et chez les bouddhistes tibétains.
Exactement, exactement. Alors nous ne sommes pas particulièrement pratiquants, mais il y avait une superstition, il fallait que ça commence par D, on est tombé sur ce nom-là. Ça nous allait très bien parce qu'on s'est enfermé en fait pendant 2-3 ans à faire du son, à vouloir développer un projet qu'on voulait prendre au sérieux, un projet pro. En fait, on avait envie de voyager dans nos vies et on ne se voyait pas voyager autrement qu'en se faisant kiffer et en faisant du son. Et donc on s'est enfermé pendant 2-3 ans et on est passé par beaucoup de genres musicaux.
Parce c'est marrant parce que dans le bouddhisme, la prise de refuge, c'est 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours, un truc dans le genre.
Ok, mais voilà, voilà, ça exactement. Ça se tient, tout se tient, ouais. mais tout est là, c'est,
tout prend
c'est
sens.
Le destin, c'est comme ça, tout prend sens. Donc voilà, aujourd'hui on est là, ça fait un an qu'on a fait notre premier concert en fait, et on est passé vraiment ouais, par des délires un peu plus trip-hop. On fait beaucoup de piano-voix pour l'instant, mais même que pour nous. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on défend sur scène, c'est un projet qui va être plus électro, qui touche aussi à la trap, au rap, un peu au R&B, plus sur la voix. Il y a des influences comme Radiohead, il y a des influences comme Travis Scott, il y a des influences... Enfin, c'est un petit peu un mélange de tout, mais c'est dansant.
Et puis il y a un petit coup de booster qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans le projet, c'est quand votre musique est choisie pour illustrer une publicité.
Pour Yves Saint Laurent.
Pour Yves Saint Laurent.
Ouais, ça a été. Ouais,
ça met un coup de projecteur malgré tout.
Ouais, carrément. Ça met un coup de projecteur plus dans le monde professionnel que dans le monde du public, même s'il y a eu les Shazam et les choses comme ça.
En plus, ça fait plutôt classe, quoi. C'est pas musique utilisée pour une pub de Knacky, quoi.
Oui, ça aurait pu être des antiparasitaires ou des trucs un peu moins sexy. C'est vrai que finalement, ça peut être.
Ça aide aussi.
La prochaine.
c'est ça. Peut-être, je sais pas, des pansements pour les ampoules, ou... je sais pas. Mais ouais, c'était. Non, qu'est-ce que t'en penses, Victor ? C'était...
Bah ouais, ça a été un tremplin, en fait, cette publicité. Puisque les partenaires qu'on a aujourd'hui. Se sont manifestés plus clairement après cette publicité.
Est-ce qu'en même temps, ça met un petit coup de vertige ou pas ? Ou vous étiez prêt ?
Non, je pense qu'on était prêt du fait de ces années de travail en amont. Je pense qu'on avait envie de ça aussi, on le cherchait. Mmh. Et c'est tombé à pic, en fait. Quoi. C'était top pour nous.
Après ça nous a aidé justement à pouvoir... Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer aussi dans un monde musical, c'est les concerts ou la synchro. Si vous voulez en vivre ou alors que vous voulez avoir des partenaires autour de vous, et là je parle uniquement de carrière professionnelle, je ne parle pas juste du kiff de faire de la musique. Et du coup, ça nous a aidé en fait à trouver aussi peut-être des partenaires qui nous ont dit « Ok, si vous plaisez à des personnes qui choisissent ça pour des publicités, parce que c'est vrai que finalement dans le monde des voitures ou des parfums, bah, généralement la BO elle est pas dégueu, enfin il y a des musiques qui sont sélectionnées et du coup ça nous a aidé à trouver des partenaires qui là après ça nous a donné un coup de pouce, mais c'était pas comme faire une grosse date ou quoi, en fait toutes les choses se passent dans la télé, enfin c'est très éloigné, nous on fait une musique et en fait les gens se l'approprient directement et on fait une publicité, mais ça donne pas un vertige.
Oui,
on n'était pas les égéries Yves Saint Laurent.
Ça fait. Met un grand coup de projecteur, mais en même temps, ça conserve une sorte d'anonymat parce que vous n'êtes pas nommé dans la publicité où il y a. C'est juste.
Non,
vous n'étiez pas dans la pub.
Non, on n'était pas dans la pub. C'était des gens beaucoup plus sexy qui étaient dans la pub. Nous, on n'y était pas. Mais après, on a participé. Par contre, ils nous ont invités sur le Yves Saint Laurent Beauty Hotel, où là, c'était un événement qui sûrement coûtait énormément d'argent. On n'a jamais rencontré autant d'Instagrammeurs et de gens qui vivent au travers des stories de téléphone. Mais là, du coup, c'était intéressant parce qu'on se confrontait à un monde qui n'était pas du tout le nôtre. Et les gens étaient, dès qu'ils ont entendu la chanson de la pub... Ah ouais, okay,
quand vous dites ça, on sent que là, vous allez chercher encore un autre concept bouddhiste, c'est la vacuité un peu, les gens qui vivent de leur Instagram.
mais Instagram fait partie de la vie. Hein.
Et ça, c'est dur ou pas ?
Les réseaux sociaux ?
Bah, d'être obligé de composer aussi dans son projet artistique avec cette dimension-là aujourd'hui. Finalement, il reste la scène. La scène, c'est quelque chose qui reste. Et tout le reste est en train de bouger. La façon dont on se représente, les supports sur lesquels on diffuse. Finalement, la scène, ça reste un peu l'ancrage où on continue à monter sur scène.
C'est ce qui reste. C'est vrai. Du coup, la scène et le studio, c'est pourquoi on fait ça, de base. Et en fait, c'est si tu veux réussir. Ou au moins, en fait, t'offrir une petite visibilité qui va permettre de faire des scènes, quoi. C'est vrai que finalement Facebook, Instagram aujourd'hui c'est hyper présent et du coup c'est même de l'ordre de l'intime quoi, parce qu'aujourd'hui il y a des artistes où, je vois des artistes pour citer des gros, mais comme la rappeuse Cardi B qui est une des nanas je pense qui pète tous les records dans le rap, qui se filme dans son lit, enfin je veux dire il y a quelque chose de hyper intime où aujourd'hui il faut qu'on se livre jusqu'à dans notre lit, jusqu'à pour en fait vendre notre musique quoi. Et ça c'est, mais pas tout le monde, c'est juste de l'effet qui se passe, mais nous c'est pas ce qu'on fait, mais et puis il y a plein d'artistes.
Je pense pas que ce soit une nécessité de faire ça pour faire vivre un projet musique, mais ouais c'est un facteur important à prendre en compte quand même.
Et vous vivez comment avec cette dimension là, Clément Bazin?
Comment je vis ça,
ou comment vous l'intégrez en tout cas à votre quotidien?
Moi j'essaie de participer à ça et de poster sur les réseaux sociaux des trucs plus ou moins utiles. C'est vrai que parfois, tu parlais des stories et tout, il y a des trucs soit un peu intimes, soit carrément inutiles. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit devenu un facteur déterminant pour développer une carrière et tout. T'as des artistes qui, avant de sortir le moindre son, sont déjà avec des stats de réseaux sociaux hyper hauts. Et ils sortent un album, finalement, ils ont déjà une audience pour faire des tournées énormes de Zénith, etc. Juste parce qu'ils sont suivis là-dessus. Et un rappeur là qui est mort il y a quelques temps qui s'appelait XXXTentacion et je crois que ce gars avait des milliers de followers, pas une photo de postée, rien, ça l'a jamais, tu vois, il s'est fait connaître en postant des trucs sur SoundCloud qui est un réseau social mais de son seulement. Je crois pas derrière qu'il ait alimenté plus que ça. Après c'est quelqu'un qui avait trouvé par exemple une façon de se livrer dans sa musique hyper intimement, mais jamais en montrant des images et tout. Donc je pense pas que ce soit déterminant. Maintenant, c'est plus que le piège, il est plus que tu peux croire que c'est, tu vois. Puis tout le monde te pousse quand tu fais de la musique. Ouais, il faut que tu fasses ça, il faut que tu postes, il faut que tu fasses ça. C'est bien. Les gens apprécient. Moi, j'apprécie les artistes que j'aime, voir des photos, des vidéos où ils te parlent et ils parlent de ce qu'ils font directement ou pas. Mais c'est pas.
Non, je pense pas que ce soit déterminant aussi. Mais en plus, j'ai découvert récemment la perversité de l'algorithme.
Oui, j'ai trouvé ça terrible.
C'est
un petit peu obligé quand même.
Si tu postes pas un truc pendant deux semaines, c'est rien. Deux semaines. Tu peux être sûr que ton poste pour annoncer une date, donc quelque chose d'utile, en plus. Tu vas avoir quatre personnes qui vont voir ça, alors que la personne qui va mettre toutes ses stories tous les jours, etc., va attirer de plus en plus. Donc ça fait, c'est pas déterminant du tout, parce qu'en plus, si t'es assez bon et si ta musique intéresse, tu peux évidemment réussir à te faire voir comme ça. Mais c'est fou comme ça peut blâmer ceux qui ne jouent pas le jeu.
Il y a un gros piège là-dedans.
Du coup, c'est pas déterminant pour une carrière, mais ça fait partie du game comme les gens voient la musique aujourd'hui.
C'est vrai.
Clément Bazin, pour parler de vous, on va falloir faire une petite explication, j'allais dire presque de texte, mais en tout cas, vous êtes professeur de musique.
Oui, j'ai un peu levé le pied, mais
vous avez un peu levé le pied au sein d'un conservatoire.
Ouais, ça j'ai arrêté par exemple le conservatoire ça me prenait trop de temps.
Il y a des instruments sur Terre qui sont de forts instruments identitaires. Il y a le ukulélé à Hawaï. Qui du coup essaime un peu partout dans le monde. Dans le Beaujolais, on a des clubs de ukulélé. Bien sûr.
Énorme.
Avec des retraités, choses comme ça, qui reprennent des trucs. Et puis, il y a un autre instrument, c'est celui que vous pratiquez.
Oui.
Qu'on appelle soit le steel drum.
Steel drum, steel pan. Et l'orchestre s'appelle le steel band.
Voilà, le steel band, qui est un instrument des Caraïbes, Trinidad.
C'est un instrument qui vient de Trinidad et Tobago, deux petites îles au sud des Caraïbes, juste au nord du Venezuela.
Alors, comme on est à la radio et qu'on ne peut pas mettre d'image, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit extrait de ce qu'est un steel band.
Magnifique.
Mathieu, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien nous passer un petit extrait de steel band ?
DJ.
Ça c'est enregistré dans la rue.
Allez, vous avez sorti les archives.
Donc c'est en gros, c'était les bidons. les bidons, oui. Les énormes bidons là, les fûts quoi,
ouais.
Qui étaient martelés pour créer des petites cavités de notes. Enfin, je sais pas, oui. Si je le dis correctement.
Alors,
je dis
si tu veux, c'est un instrument qui est acoustique, qui est né dans les années 40 à peu près à Trinidad. C'est le dernier instrument acoustique inventé. Et c'est un. Tu parlais du ukulélé parce que c'est un instrument qui a. Qui est un emblème en fait d'un pays, et le steel drum c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça a été inventé par les gens les plus pauvres de la société. Trinidad c'était une île qui a été colonisée, où il y a après l'abolition et pendant l'esclavage et après l'abolition forcément une grande misère et des grandes disparités sociales, et cet instrument il est dans un climat très violent, très pauvre, il est, et c'est la fierté des habitants et particulièrement des couches les plus populaires de la population là-bas. Et il est fait à partir d'un baril de pétrole parce qu'à la base, il est né de la récupération. Et ça a été vraiment inventé par des zonards, en fait. Hein.
C'est un peu comme les carons en Espagne, quoi. C'est...
Ouais, sauf qu'ils ont inventé un orchestre, quoi. Ils ont inventé un orchestre symphonique. Donc, à la base, ils utilisaient des poubelles, des boîtes de biscuits en acier. Comme c'est une île avec beaucoup de ports, notamment où il y avait les Américains, qui était basé, il y avait beaucoup de fûts de pétrole, et de fil en aiguille, après avoir trouvé qu'on pouvait accorder le métal en tapant dessus, ils sont tournés vers des bidons qui offraient une surface plus grande et plus résistante, et ça s'est développé assez vite parce que finalement dans les années 40 ça ressemblait à un pauvre bidon avec trois notes mal accordées. Et de ça, quoi, on est 80 ans plus tard.
Il y a des, alors, je ne sais pas si on dit un facteur pour celui qui construit cet instrument, mais en tout cas...
Ouais, un fabricant, ouais, c'est un artisan, des... hein, c'est fait à la main. Et donc, le métal est embouti, martelé, on dessine un sillon entre les notes pour isoler harmoniquement chaque note. Et ils ont développé ça, ça se joue en orchestre, quoi. Donc là, ce qu'on a entendu, c'est un tout petit orchestre, un orchestre de steel band à Trinidad, en tout cas, c'est 120 musiciens. Au niveau du son, c'est un genre d'orchestre symphonique punk. Voilà. C'est massif. C'est comme un symphonique, c'est-à-dire que tu as plein de sections, plein d'instruments, du soprano jusqu'à la basse. Et c'est souvent un instrument qui est très méconnu, quoi. Donc souvent, on imagine le gars qui joue sur un paquebot, une petite mélodie. Alors que le steel band, à la basse, c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment une musique orchestrale très puissante.
Et votre projet, vous, Clément Bazin, oui. Donc c'était... à la fois de garder ce rapport que vous avez avec cet instrument,
ouais.
Et de le mettre au centre de votre musique, qui est plus, ouais. On va dire, électro.
Ouais. Bah, moi, j'ai grandi... il se trouve qu'à Paris, il y a une grosse association qui s'appelle Calypsociation, qui enseigne cet instrument et fait la promotion de cette culture. Et moi, j'ai commencé tout petit dans les orchestres. Voilà, j'ai croisé un orchestre dans une fête de quartier et je me suis inscrit dans l'association rapidement. Et donc j'ai grandi là-dedans, j'ai fait ça pendant 15 ans, un truc comme ça, en tant qu'instrumentiste dans des orchestres de steel band seulement. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert la musique électronique et Reason à l'époque pour faire du son, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai de plus en plus intégré le steel drum à ma musique.
Alors, vous allez me dire si je me trompe, parce que je vais te dire une grosse bêtise, mais moi, il m'a semblé, en écoutant votre musique, que le son du steel drum, vous ne veniez pas le modifier électroniquement, enfin, pas trop, que vous conserviez son...
Ouais, il est...
C'est-à-dire presque sa nature acoustique.
Ouais, ça dépend des morceaux. Quand tu l'as pas reconnu, c'est parce qu'il était trop modifié.
D'accord, c'est
ça
pour ça, alors.
Un peu à un synthé, selon les effets que tu t'appliques dessus.
Du coup, il y a des effets...
Mais... Quand tu l'entends vraiment.
On peut juste écouter tout début du morceau That Feeling pour voir comment ça s'intègre dans la musique de Clément Bazin. Instrument harmonique et à la fois instrument percussif aussi, c'est à la fois une percussion, à la fois c'est assez fantastique cet instrument.
C'est un instrument magique, un des plus bels instruments au monde. C'est tout.
Rien de plus à dire.
Non, mais c'est une percussion mélodique, effectivement, puisqu'il y a des notes. Chaque instrument, ça, c'est un soprano là qu'on entend dans l'enregistrement. Mmh. Chaque instrument est chromatique. Comme je disais, c'est une famille d'instruments. Donc, c'est comme les cornes. Tu vas du violon jusqu'à la contrebasse. Chaque instrument est chromatique. Donc, tu peux jouer dans tous les tons. Tu peux même faire des reprises de chansons, ce que tu veux, quoi.
Et du coup, alors sur scène. Ouais. Le dispositif, c'est quoi alors?
C'est assez différent parce que l'album, je l'ai fait tout seul avec beaucoup de machines et d'électronique. Et sur scène, il y a un batteur, il y a un percussionniste qui a aussi plusieurs synthés, basse et accords, lead, et une chanteuse. Et moi, j'ai un clavier, des contrôleurs et mon steel drum avec moi. Donc on est quatre.
Il y a un seul steel drum sur scène?
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis je te dis, un petit paquet de synthé et de machines. Donc c'est très joué parce qu'il y a du monde sur scène, mais on a gardé un son assez produit, assez patate, qu'on retrouve souvent dans la musique électronique.
Le deuxième instrument, c'est la voix dans votre musique, les
morceaux. Ouais, alors c'est pas la mienne.
C'est pas la vôtre.
Il y a beaucoup de.
Alors les voix, je devrais peut-être dire.
Il y a beaucoup de samples, de voix, d'acapella, trucs en tout genre. Et j'ai fait des chansons avec deux chanteuses, si je dis pas de bêtises, et deux chanteurs rappeurs que j'ai rencontrés à Montréal. Mmh. Et on s'est trop bien entendu. J'ai rencontré un petit collectif de musiciens là-bas. C'est assez petit comme ville, Montréal. Tout le monde se connaît. Et du coup, ça a cliqué. Et je passais 10 jours là-bas et on a écrit des chansons et on les a enregistrées.
Et du coup, pour vous, la voix, c'est quoi? C'est un instrument comme un autre, du coup, qu'on peut utiliser,
ouais, bah boucler, c'est clair, c'est même l'instrument le plus complexe de tous les instruments. Parce qu'il y a tellement de variations dans la voix, dans l'intonation, dans la justesse, dans l'intention, dans l'émotion. Mais moi, bosser avec des voix en dehors des samples, c'était aussi le challenge, comme je te disais, de l'orchestre et du fait d'être instrumentiste. Et puis maintenant, d'être plus producteur de musique électronique. T'as le challenge d'écrire des chansons, genre vas-y en 3:30, on va essayer de faire une chanson forte avec, tu vois, un refrain, des couplets, une histoire. Et ça, c'était notamment en bossant sur l'album, c'était le, tu vois, le challenge de se bosser sur cette forme-là, quoi, qui est hyper presque strict, quoi, tu vois.
Quand on a un groupe type groupe de pop ou de rock, et là, je vous invite à participer avec nous aussi à l'échange, on a. Assez facilement une répartition sur scène des rôles et des personnes qui vont se mettre plus en avant dans le contact au public, dans l'échange, enfin, qui vont un peu plus incarner, un peu plus représenter. Là, dans votre cas, vous, c'est vous qu'on vient voir, mais en même temps, vous n'êtes pas la voix. Souvent, c'est la voix qui représente un peu l'incarnation du groupe. Comment on gère aussi quand on est seulement deux, ou alors quand c'est pas soi qui chante, comment on gère du coup cette incarnation du projet sur scène?
Et on partage. Moi, je. Alors, il n'y a pas que des chansons dans le set. Donc, c'est vrai qu'elle vient. Tony, là, qui chante avec nous sur la tournée, elle vient chanter, genre, peut-être un tiers du set, tu vois, d'avoir quatre chansons. Et non, mais on partage. C'est pas un problème. C'est vrai que souvent, la voix, c'est le lead, c'est genre ce qui brille devant. Mais après, voilà, tu peux occuper la scène de plein de façons différentes.
Ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit. Du coup, on se dit, bon, là, il va falloir trouver une autre façon. Ou là, on est plutôt dans un rapport intuitif et on sait que le lien va se faire.
Ouais, non, intuitif, simple, quoi. J'ai écrit des chansons. Comme un couillon, les quatre chanteuses sont au Canada, donc je peux pas les faire venir à chaque fois. Donc, tu appelles une chanteuse ou un chanteur. Et non, c'est franchement du partage, pas de réflexion sur « Ah, est-ce que ça fausse le rapport, etc. » Non, non, non.
Et pour vous, Dampa?
Ben là, c'est moi qui parle, mais ça pourrait être Victor, parce que en fait, on s'efforce un peu justement à. Surtout une chanteuse et un mec à la prod, alors généralement, c'est un peu le cliché de la rappeuse avec le DJ. Alors qu'en fait, on s'efforce à se mettre tous les deux en avant, on s'efforce à faire un groupe. Et parce que Victor, justement, dans tout son processus de prod, même si on est. Deux à boucler les morceaux, c'est lui qui va commencer à écrire tous les rythmes et Dieu sait que le rythme sont très importants dans notre projet. Et on essaie justement d'être sur la même ligne à chaque fois, on essaie de défendre ça en fait, on n'a pas envie.
Mais pour autant sur scène, c'est important, je trouve, d'avoir le lead de la voix. Et puis aussi de jouer nos personnages sans surjouer quelque chose ou sous-jouer quelque chose. Et je pense que naturellement, Angéline a plus d'aisance, de présence, et du coup va venir accrocher les gens bien plus que moi.
D'ailleurs, vous la laissez même répondre en premier souvent. Hein. Il y a la petite invitation.
Oui,
vas-y,
mais ça, toi. Non, mais vas-y, ça, c'est toi. Pas la question de la chanteuse, ça, c'est la question de timidité, ouais, puisque ouais. Tu vois, on n'est pas sur le lead.
Mais du coup, sur scène, on rejoint un peu ces personnages qu'on a dans la vie, un peu, quoi, qui ne sont pas des personnages.
C'est drôle parce que nos ça dépend des concerts quand même, c'est souvent. Genre, quand on a des potes parfois dans la salle, ils ont dit oh mon Dieu, on a fait les trois premiers rangs, ils étaient complètement in love de toi, Victor, quoi. Et donc, c'est lui qui est statique derrière les machines, et c'est lui qui prend justement tous les regards et tout, parce que, de par la présence même des machines, etc., ce qui est cool et ce qu'on aimerait faire, c'est que ça puisse être aussi attirant que quelqu'un qui fait que danser, qui fait que bouger tout le temps et tout. Et on a vraiment deux caractères sur scène qui n'ont rien à voir l'un de l'autre.
Et le contraste était intéressant, ouais, c'était une carrément. Volonté au final, quoi. On s'est demandé si est-ce que vraiment on devrait chacun avoir cette présence, et en fait non, on pense pas, quoi. Ouais. Voilà.
En tout cas, on vous souhaite à Dampa et puis à Clément Bazin un bon concert ce soir.
Merci. Aux
Nouvelles Voix. Et puis avant de découvrir Yeast sur scène là dans une toute petite poignée de minutes, demain pour clôturer le festival, Olivier Bocongibo, il y a les siestes acoustiques de Bastien Lallemand.
Oui, on avait envie, après une semaine d'émotions, de bruit, de danse, de redescendre tranquillement. Du coup, on a organisé avec Bastien Lallemand deux siestes acoustiques, une à 15h, une à 17h à l'auditorium de Villefranche, donc juste à côté du théâtre, où deux artistes que lui-même invite, ce sera JP Nataf et Zaza Fournier, revisitent leur...
Alors je crois pas que c'est à la salle Planchon ici.
Oui, hein, salle Planchon, pardon. Oui. Ouais, pardon. Et revisitent leur
commence
répertoire.
Comment ça fatigue, Olivier.
Ouais, exactement, une semaine de concerts.
En plus, ce qui est fantastique, Olivier, c'est que vous faites plein de concerts. Non, mais je veux dire, pour programmer, du coup, vous allez voir plein de concerts comme
forcément.
Ça. Et quand... quand on vous voit là, même moi je vous ai vu hier soir, en fait vous dansez, vous êtes quand même là à prendre des photos comme si c'était le premier concert de votre vie.
On est un public professionnel, hein. On aime vraiment la musique, et ce qu'on aime c'est propager des bonnes émotions, donc heureusement on les reçoit encore.
Du coup lui il va à tous les concerts.
Moi-même, ouais,
oui,
bien sûr.
C'est pour ça qu'il est un peu fatigué après quand arrive le dernier jour.
Il la voit un peu cassée.
Donc Bastien Lallemand, il fait venir des artistes, alors pas que des musiciens, des chanteurs, mais parfois aussi des auteurs.
Tout à fait, l'idée c'est de se laisser porter tranquillement autour d'une musique calme, d'inviter à l'introspection. Le public peut être allongé, fermer les yeux, et c'est une rêverie en fait. Et l'idée c'est pas tellement de s'endormir plutôt que de s'apaiser.
Eh bien, en tout cas, il est encore possible de venir chercher des places. Il reste des places pour quelques participer à cette sieste acoustique de Bastien Lallemand. C'est d'ailleurs aujourd'hui là où on nous dit qu'il faut sans arrêt avancer, être productif comme ça. Je trouve que c'est bien un festival qui invite à faire la sieste aussi.
Oui, je pense qu'après 6 jours de fête aussi, on en avait nous-mêmes besoin.
Mais même, ça fait du bien un peu de savoir que le dimanche, on peut se reposer quand même.
Exactement, c'était l'idée.
Merci en tout cas, Olivier Bocongibo.
Merci à vous.
On se dit à l'année prochaine.
Eh bien, rendez-vous pris.
Avec là encore de belles découvertes, j'espère. Et puis là, on va laisser la place tout de suite à Yeast, qui va commencer son concert dans quelques secondes. Je voulais vous dire aussi, je voulais dire merci à Mathieu Roy aussi, qui a réalisé cette émission et qui a rendu possible ces échanges intéressants sur ces 3 jours. Lui aussi, il s'est fait un marathon, des émissions sur le marathon, des émissions au festival. Donc voilà, il a tenu bon. Merci. En dernière minute, je lui ai dit, il faut que tu me trouves un son de steel drum, enfin de steel band.
Il l'a fait.
Trouvé ça. Donc merci beaucoup, Mathieu, et j'espère que tu seras au rendez-vous et en pleine forme lundi matin pour le gala de matin. Et maintenant, nous, on vous laisse avec Yeast en concert depuis le festival des Nouvelles Voix en Beaujolais. Restez à l'écoute de Calade.
Nouvelles Voix en Beaujolais.
Nouvelles Voix en Beaujolais.
100.9 Calade.
artistes en concert dans le cadre du Festival des Nouvelles Voix en direct depuis le Théâtre de Villefranche.
Pas de loin.
Vous êtes bien sûr Calade et c'est Yeast qui est en direct depuis le Festival des Nouvelles Voix en Beaujolais. C'est un groupe lyonnais que nous avons grand plaisir à vous faire découvrir. Nous sommes toujours en direct depuis le Théâtre de Villefranche pour le concert de Yeast que nous vous retransmettons avec grand plaisir en direct. Un magnifique groupe lyonnais avec un beau travail sur les harmonies des voix. C'est jusqu'à 19h45 à peu près. Le hall est déjà plein de gens qui apprécient beaucoup ce groupe. essayiste en concert sur Calade depuis le Festival des Nouvelles Voix en Beaujolais. J'espère que vous appréciez ce groupe qui vient de pas très loin, de Lyon, et qui voilà fait qui a déjà un beau parcours, qui vient de sortir un EP. Et que vraiment, je pense, un groupe à suivre parce qu'ils font vraiment un très très beau travail et ils sont très sérieux. Vraiment à suivre. Et on va continuer à découvrir les morceaux là de ce concert. J'espère que vous appréciez Yeast qui est en live sur Calade.
C'est un titre qui est sorti il y a un mois. Et donc on est hyper content de pouvoir retrouver la route et les concerts. Et on a beaucoup de chance. Donc encore une fois, merci d'être là. Et on va jouer des nouveaux titres qui s'appellent Reveries. Et call live après.
Thank you.
En direct et en concert sur Radio Calade depuis le festival des Nouvelles Voix en Beaujolais.
Merci de nous écouter, ça nous fait très plaisir. On a beaucoup de chance de jouer ce soir, en plus avec des super groupes qui vont jouer après Inuit, Clément Bazin, Dampa. Donc voilà, c'est une vraie chance pour nous. C'est l'émotion, je crois que je pleure un peu, mais ça y est. On va jouer un nouveau titre aussi qui s'appelle Closer. Voilà, et on a sorti, donc, comme je vous disais, un CD, on a des vinyles aussi, donc si ça vous intéresse, on a des choses à vendre après le concert. Voici Closer.
Calade, 100.9.
Curious, but now the roof is good, but for serious. Gotta change the state that I'm in, 'cause I'm getting closer. Don't
C'est Yeast en concert et en direct sur Calade depuis le Festival des Nouvelles Voix en Beaujolais. J'espère que vous appréciez encore quelques morceaux. Un groupe à suivre, Yeast, ce sont des Lyonnais, c'est Y-E-A-S-T. Si vous avez des envies de les suivre, ils sont sur les réseaux sociaux, donc à suivre. L'EP vient de sortir, l'album on va attendre un peu, mais en tout cas, ils vont tourner sur la région et partout en France, et à mon avis on va les retrouver dans pas mal de festivals cet été. Direct sur Calade, c'est Yeast qui est en concert dans le cadre du Festival des Nouvelles Voix en Beaujolais, festival qui dure jusqu'à demain, avec un rendez-vous un peu spécial, les siestes acoustiques de Bastien Lallemand. Et on vous laisse avec Yeast encore pour quelques morceaux.
vraiment hyper fier, hyper content d'avoir joué ce soir. Merci à vous tous, merci à notre équipe aussi, à nos techniciens et à notre équipe de management et de tour qu'on adore. Enfin, ils sont gentils. Et voilà, on espère vous revoir très vite. On s'appelle Yeast, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On est de Lyon et passez une très belle soirée. On va finir avec un titre qui s'appelle We Are The Same. Merci. Merci beaucoup. Et qui parle d'unité, qui parle de s'aimer tous ensemble les uns les autres. Je pense que c'est d'actualité, donc voilà.
Galade. Oh, thought we were better than this. I think it's nameless. I know, it's not your way to think. Stuck in front of their delis. Instead of making inquiries about a world of difference. Instead we make a move for centuries. I think it's time for our societies to take the golden way hand in hand. To come transplanting that end someday. I know I will. Into the heads, we are the fire, and everything it stands down. Let me show you that love's on its way. Fill your heart, tear your head, that's okay. Under the sun, turn the palace day on homes. Just look at how close they get to the edge. Tromper le silence. Pourquoi le vent se fait-il à contresens? Le temps dessine les cours de nos plans. Sometimes I like to throw everything away. But no matter, doesn't turn to 26. I never take again democracy. It's like a tree. I know, you're gonna say we are the same. It's getting into the heat. We are the fire. If everybody says no. Merci beaucoup, passez une très belle soirée, c'était Yeast, à très bientôt. Merci.
Merci beaucoup.
C'était Yeast en concert en direct sur Cala dans le cadre du Festival des Nouvelles Voix en Beaujolais. Leur dernier morceau, c'était We Are The Same, à découvrir très très vite leur dernier EP, Dust of Light. Yeast, c'est un groupe lyonnais, voilà. Les Nouvelles Voix, ça se termine demain avec les siestes acoustiques de Bastien Lallemand. Si vous voulez vivre cette expérience, il est encore temps de venir chercher des places. Ce sera notamment en compagnie de JP Nataf au chant. JP Nataf, chanteur des Innocents, voilà, ça va être un beau moment, à la fois de la poétique, à la fois un petit peu de lâcher prise, d'abandon, enfin, c'est un bon moment à vivre. Merci à Mathieu Roar qui a réalisé ces 3 jours d'émission, ces 3 jours de direct et qui a rendu tout cela possible. Car sans ces moyens techniques, eh bien, pas d'émission, pas de concert et pas de vie de festival. Merci Mathieu. Vous le retrouverez dès lundi matin, peut-être un peu fatigué, on verra, ou alors il sera bien reposé demain dimanche. On va peut-être lui donner une place pour aller aux siestes de Bastien Lallemand demain. Et merci aussi à Patrick Gervais qui a été présent et dans l'ombre pour aider à l'installation des studios et à l'installation aussi, tout facilité. C'était super sympa de sa part d'être là. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute des programmes de Calade. Si vous avez envie de passer une soirée en musique, eh bien, restez à l'écoute de Calade. Très bonne soirée et à très vite.
Nouvelle voix en Beaujolais.
Nouvelle voix en Beaujolais. 100.9 Calade.